Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Le XXe siècle est maintenant bien entamé. Vous avez fait connaissance avec l'art conceptuel, le minimalisme et le land art. Dans l'émission précédente, je vous ai expliqué de quoi il s'agissait et quelles étaient les motivations des artistes. Aujourd'hui, nous continuons notre cheminement, mais je vais revenir sur un des courants abordés succinctement, c'est la nouvelle figuration ou la figuration narrative ou encore nommée figuration critique. Je vous avais dit que ce courant s'était manifesté autour des années 60 et que cette peinture devenait la figurative en réaction à l'abstraction. Alors bien que ce courant s'inspire de techniques variées empruntées à la peinture et à la photo, ou que l'on trouve dans la publicité, la bande dessinée, voire le cinéma, et même s'il semble s'apparenter au pop art par les formes et les couleurs vives, l'état d'esprit de ces artistes est à l'opposé. En effet, il se caractérise par une critique de ces expressions artistiques à la mode que sont le conceptuel et le pop art, à qui il reproche de rentrer dans le jeu de la société bourgeoise de consommation au capitalisme exacerbé. Nous pouvons dire que ces peintres sont des artistes engagés avec un regard critique sur la société des années 60-70. Alors celle-ci est marquée par les guerres comme la guerre d'Algérie, celle du Vietnam. Un vent de liberté et de révolte souffle sur une jeunesse prête à changer tous les codes. L'ensemble débouche sur les conflits sociaux qui opposent la population politique et où s'épanouit néanmoins avec allégresse la société de consommation. Alors globalement, ils apparaissent surtout comme des artistes de gauche, voire d'extrême gauche, et chez eux, cela se traduit par une peinture qui cherche surtout à assumer une fonction critique de la société, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors les thèmes sont donc beaucoup en relation avec les faits de société, la politique, et ils abordent tout cela avec un certain humour, de la dérision, voire de la causticité. Bon, à ce qu'il paraît, on retrouve dans ce travail artistique une relation avec les thèses gauchistes du philosophe sociologue allemand Herbert Marcuse, qui estimait que le potentiel subversif des œuvres tenait plus dans la dimension esthétique, et donc liée à l'image, que dans un discours explicite. Bon, je n'ai pas lu Marcuse, mais ce sera intéressant de le faire à l'occasion, vu ce que j'en ai appris. Alors, je vais vous donner des exemples. Bon, vous voyez le peintre espagnol antifranquiste Eduardo Arroyo, qui, dans son tableau intitulé « Les quatre dictateurs éventrés », inclut au nombre des quatre, au milieu de Mussolini, Hitler et Salazar, qui est le dictateur portugais, le chef d'État espagnol Franco. Ce qui provoqua à l'époque, bien évidemment, la protestation du gouvernement espagnol. Bon, malgré quelques balbutiements préalables, la figuration narrative s'est réellement affirmée en 1965 lors d'une exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et cette exposition, nommée « Mythologie quotidienne », fut initiée par le critique d'art Gérard Gassiot-Talabo et les peintres français Bernard Rancillac et Hervé Télémaque, où participèrent également une trentaine de peintres européens, avec l'objectif principal d'exposer en réaction contre le pop art et l'art américain qui envahissait à l'époque toute la scène artistique nationale et internationale. Je vais d'ailleurs vous citer et décrire une œuvre contestataire. Il s'agit d'un polyptyque, donc avec plusieurs images, dans l'esprit de la bande dessinée, ce qui leur permettait de prendre position et de donner corps à leurs idées, et qui est intitulé « Vivre et laisser mourir » ou « La fin tragique » de Marcel Duchamp. Bon, le titre en lui-même nous donne un aperçu de son contenu. Cette œuvre constitue en quelque sorte le manifeste de ce mouvement. Alors, c'est une œuvre qui a été réalisée en collaboration avec les peintres espagnols Eduardo Arroyo, le français Gilles Ayot, l'italien Antonio Recalcati. Bon, il faut dire aussi que les artistes travailleront en collectif où chacun pourra intervenir sur le travail de l'autre, car cela correspond également à un état d'esprit. Et je cite ce que j'ai lu à ce sujet. Un état d'esprit pour abolir la facture personnelle considérée comme base de l'idéologie bourgeoise au profit de l'anonymat, conséquence du travail collectif. Alors pour revenir à cette œuvre, il s'agit de 8 tableaux représentant l'assassinat de Duchamp par les 3 principaux peintres. Et le 8e tableau s'achève par le cercueil recouvert du drapeau américain et soutenu par Andy Warhol, Paul Restany, Armand, Martial Reis, Claes Oldenburg et Robert Rauschenberg. Alors cette œuvre a été réalisée, bon et voici ce que j'ai lu, cette œuvre a été réalisée en s'attaquant à l'art conceptuel et à cette figure de l'avant-garde, symbole des falsifications intellectuelles de la culture bourgeoise qui anesthésie les énergies vitales et fait vivre dans l'illusion de l'autonomie de l'art et de la liberté de création. Le critique d'art Gérald Gassiot-Talabo dit à propos du pop art: à la dérision statique du pop art américain, c'est-à-dire les peintres de figuration narrative, opposent tous la précieuse mouvance de la vie. Bon, vous avez bien compris qu'avec la figuration narrative, la société contemporaine est au cœur des préoccupations de ces artistes, qu'ils la décrivent à leur manière en utilisant les médiums de leur époque, et que ces œuvres expriment plutôt leur contestation avec humour et dérision. Bon, nous allons rester dans l'ambiance en écoutant un peu de musique, et je vous propose une chanson de Léo Ferré, enregistrée en 1968, et intitulée « Les anarchistes ».
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté fait le sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Rien n'a pas sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Bien, un petit peu de ferré ne fait pas de mal de temps en temps. Alors, un autre courant prend forme à cette époque qui se nomme l'hyperréalisme. Il apparaît en Amérique dans les années 70 et l'on parle également de photoréalisme et pour les Américains de superréalisme. Bon, on peut dire qu'il s'agit en quelque sorte d'un retour à la figuration traditionnelle américaine. Et c'est le galeriste new-yorkais Louis Camezel qui lance ce terme en 1969 pour qualifier des œuvres dont la qualité picturale fait penser à la photographie ou bien la précision des formes sculptées ou modelées se confondent avec celles de véritables personnes en chair et en os. On dit qu'il n'y a pas d'engagement particulier de la part des hyperréalistes, sauf de vouloir montrer la réalité telle qu'elle est. Mais en tout cas, on ne peut nier que le résultat plastique est toujours bluffant de vérité. Et cette précision, évidemment, demande du temps, de la technique et du savoir-faire. Par certains côtés, on compare l'hyperréalisme au pop art parce qu'il utilise des symboles populaires. Mais à mon avis, l'hyper-réalisme requiert des qualités de précision et de patience avec des connaissances et un savoir-faire technique important pour un résultat beaucoup plus impressionnant et certainement plus admirable que celui du pop art. Et c'est un constat que je fais par rapport au travail réalisé. Bon, ce qui n'empêche pas certains artistes de peindre sur photo ou utiliser un appareil nommé épiscope, hein, qui est une sorte de rétroprojecteur grâce auquel on peut reproduire les contours d'un objet opaque en l'agrandissant. La forme, elle, ben, s'obtiendra aussi par moulage direct sur le modèle. Mais de toute façon, tous ces procédés ne constituent qu'une infime partie du travail de l'artiste. Et je prends pour exemple le cas du sculpteur australien Ron Mulls, qui consacre à son œuvre, comme ses autres confrères, des mois de travail. Alors pour lui, cela va du croquis au crayon, en passant par la maquette en argile ou en plâtre. Ensuite, il procède à la sculpture d'un nu, puis réalise le moule. Enfin, il coule la résine réalise la peau en silicone. Plus le vernis, hein, de manière à faire ressortir tous les détails, et souvent les cheveux sont de vrais cheveux. Et cet ensemble sera recouvert ou non de tissu, en tout cas celui-ci sera véritablement taillé comme un vêtement, quelle que soit la taille de la sculpture, qu'elle soit en pied ou davantage. Et dans tous les cas, le résultat est confondant, bluffant, extraordinaire. Et en exemple, vous avez couple sous une ombrelle, bon je le dis en français par respect pour la langue anglaise que je risquerais encore de malmener. Alors il s'agit de deux personnes vieillissantes, un homme et une femme. Ils sont évidemment sous une ombrelle, un genre de parasol. Elle est assise sur la plage dans son maillot bleu, lui est allongé et sa tête repose sur les genoux de la femme. On les voit méditatifs, plutôt introvertis. Ce sont des gens qui paraissent humbles, banals. Et ce que l'on remarque surtout, c'est l'apparente tendresse à la façon dont l'homme pose sa main sur le bras de la femme. Et lorsque vous regardez l'ensemble, vous êtes vraiment devant un couple en chair et en os, en pied, hein, avec ses défauts, ses fragilités, mais aussi sa beauté dans son intime rapport de timide tendresse, on va dire ça. Alors, d'autres sculpteurs se sont illustrés à l'hyperréalisme, comme par exemple l'Américain John De Andrea, qui lui réalise des sculptures en polyester qui ont la particularité, en général, mais pas toujours, d'être jeunes et beaux et suggéreraient plutôt le désir amoureux, d'autant plus que les personnages sont représentés nus, même si ça l'est dans les situations de la vie quotidienne. Bon, ce n'est pas vraiment le cas de Duane Hanson, hein, qui nous montre en général l'Américain consommateur moyen, comme avec cette sculpture qu'il nomme Supermarket Lady. Alors il s'agit d'une femme, genre ménagère, un peu avachie, grassouillette, avec des bigoudis sur la tête et qui pousse, on l'imagine d'ailleurs nonchalante. Donc elle pousse un caddie de supermarché débordant de victuailles. Et c'est une image de la consommatrice américaine type des années 70. Et en quelque sorte, Duane Hanson oblige le spectateur à regarder cette personne dans ce contexte artistique, chose qu'il ne fait pas forcément lorsqu'il la croise en faisant ses courses. D'ailleurs, il dit, et je lis, « Mes motifs préférés sont les Américains de la classe inférieure et moyenne. Pour moi, la résignation, le vide et la solitude de leur existence rendent bien la véritable réalité de la vie de ces gens. » C'est vrai que d'une certaine manière, la sensibilité de cet artiste qui transparaît dans sa volonté de montrer, elle oblige quand même, bon, à moins d'être complètement ensuqué, à s'interroger sur le monde moderne avec ses modes de consommation effrénés dans lesquels sont pris les êtres poussés à se remplir pour combler leur vide existentiel ou affectif. Et plus ils se remplissent de choses matérielles, et plus ils se vident de leur propre substance vitale et personnelle. Bon, c'est une œuvre intéressante, hein, également dans ce qu'elle véhicule, de la réalité ambiante, et bon, c'est mon avis, et ça n'engage peut-être que moi. En ce qui concerne la peinture, eh bien vous avez l'Américain Richard Est qui reproduit avec une grande minutie les détails de la vie urbaine, toujours sans personnage. Il utilise ses photographies et intègre des effets d'optique et transforme ainsi visuellement le paysage urbain en un environnement insolite. Alors les images sont souvent froides, ne serait-ce que par la rectitude, les lignes droites, hein, le bleu des blocs de verre semblables à de la glace, le béton, les enseignes publicitaires au milieu pour nous inciter à consommer. Et d'ailleurs, Est disait de son travail, et je le lis, « Je n'ai pas de plaisir à peindre ce que je peins, alors pourquoi en auriez-vous ?» Bon, pourquoi en auriez-vous à le voir ? Je suppose que c'est ce qu'il a voulu dire. Alors tout cela, c'est sûr, n'est pas très enthousiasmant, évidemment, lorsque nous lisons ce type de citation. Mais je pense que peindre la réalité en s'appliquant avec tant de soin, c'est déjà pour susciter chez nous une réaction, même si elle n'est qu'au premier degré, parce que nous sommes forcément impressionnés face à la technique des artistes. Bon, je pense qu'il y a un second degré, parce que quelque part, en nous obligeant d'une certaine manière à regarder leur œuvre, nous regardons enfin la réalité, et celle-ci, ben, elle exprime une situation singulière, apte à déclencher par la suite une réflexion et provoquer un ressenti désagréable ou une déception que l'on peut partager avec l'artiste. Bon, j'espère que je suis claire. C'est une manière d'attirer l'attention et je veux simplement dire que l'artiste montre pour que nous regardions et que nous nous interrogions à notre tour sur la pertinence de ce qui nous est proposé et imposé par notre contexte social. Bon, c'est ma façon à moi d'appréhender ce travail. Alors nous allons refaire une petite pause musicale. J'ai envie de rester avec nos compositeurs interprètes engagés et aux discours pertinents face aux transformations de ce milieu et fin de XXe siècle. Aussi là, je vais vous proposer La Montagne de Jean Ferrat, histoire de retrouver sous nos pieds la précieuse authenticité de la terre et le bon sens de ceux qui vivent et savent l'aimer.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Bon, j'espère comme moi que vous avez apprécié. Alors, nous continuons. Alors, sinon, d'autres peintres se sont illustrés dans cette voie de l'hyperréalisme. Et je finis avec l'Américain Richard MacLean, qui surtout a peint la ruralité, et notamment des chevaux. Ou alors cet autre Américain, Robert Bechtel, qui lui a surtout peint des voitures, puis des scènes d'intérieur avec des personnages. Alors dans les années 80 apparaît la figuration libre, et le nom vient de l'artiste français d'origine suisse, Ben, de son vrai nom Benjamin Vautier, suite à sa rencontre avec de jeunes artistes peintres français qui sont Robert Combas, Hervé Di Rosa, François Boiron et Rémi Blanchard. Alors ce sont donc principalement ces peintres à l'origine de ce courant remarquable par la liberté qu'ils s'accordent de jouer avec les formes et les couleurs. Bon, pour en revenir à Ben, il a eu un certain succès en son temps avec ses fameuses écritures noires sur fond blanc du genre « L'art est inutile » ou « Écrire, c'est peindre des mots », etc. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup questionné sur l'art, le monde de l'art, le rapport entre l'art et la vie, le rôle de l'artiste, etc. Et ses créations écrites rendent compte de son rapport à l'art. Bon, et je vous dis ce que j'ai lu. Ben perpétue de façon systématique l'idée selon laquelle une œuvre d'art est reconnaissable, non pas par sa teneur matérielle, mais exclusivement par sa signature. Alors pour en revenir aux artistes porte-drapeau de la figuration libre, je vous ai parlé de Robert Combas, et qui ne connaît pas Robert Combas, hein, ne serait-ce que par le nom, on va dire que c'est le chef de file de la figuration libre. Alors que fait-il ? Je vous ai dit qu'il était peintre, inspiré par le graffiti et la bande dessinée, et c'est vrai que lorsque on regarde des œuvres ses œuvres, hein, les formes et les couleurs dansent et s'entremêlent dans un joyeux délire. Bon, ça bouge, et en même temps, bah, ses peintures racontent une histoire. Et c'est d'ailleurs lui qui dit « Ma peinture, c'est du rock ». Le rock and roll, rock, hein, R-O-C-K. Il adore le rock et ça donne également à la composition. Et pour illustrer un peu tout cela avec de la musique, j'ai trouvé un groupe des années 70 que j'aime assez d'ailleurs, qui se nomme Queen. Et je vais vous faire écouter « We will rock you », qui signifie en quelque sorte en français « On vous secouera ». Voilà, ça tombe bien.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
Bien, maintenant que je vous ai réveillé, nous pouvons continuer. Alors, Humbert Combas dit également, pour résumer son travail, c'est faire le plus possible ce qu'on veut, le plus personnellement et le plus librement. À côté de Combas, vous trouvez Hervé Di Rosa. Lui est un artiste assez prolifique. Ses peintures sont aussi très colorées en rapport avec le graffiti, la bande dessinée, comme d'autres de ce courant. En plus, il est sculpteur. Il réalise des découpes en acier qu'il peint, et je lis ce que j'ai lu et qu'il aurait dit, la fonction de l'art est d'envahir la vie, de la rendre moins dérisoire. À titre d'information, il a fondé un musée en 2000 dans la ville de Sète, en collaboration avec un autre artiste céramiste collectionneur français nommé Bernard Belluc, et il nomme la collection qu'il abrite « L'art modeste ». Alors c'est un ensemble d'œuvres assez conséquent, paraît-il, d'artistes internationaux de tous âges qui n'auraient pas trouvé preneur ni d'accueil favorable à l'extérieur. Bon, je ne connais pas, mais si je passe à Sète, j'irai, je pense, y faire un tour. De ce groupe, il y a François Boiron qui lui peint dans la même veine de liberté que les autres et sur tous les supports possibles, carton, papier journal. Il s'inspire de la bande dessinée, également du cinéma. Il peint des portraits, des objets et fait du monumental. Quant au peintre Rémi Blanchard, c'est aussi très coloré, mais je trouve que les formes sont plus épurées. Le trait de dessin est simplifié et il se dégage de ce que j'ai pu voir une naïveté. Une poésie mélancolique. Je signale quand même que ce peintre est décédé depuis quelques années. Je crois qu'il aurait dû avoir l'âge des autres maintenant, c'est-à-dire entre 55 et 60 ans. Voilà ce que je peux vous dire pour les peintres de la figuration libre. Et c'est le moment de nous dire au revoir. Nous aborderons la fin du XXe siècle lors de la prochaine émission. Il sera question, entre autres, du body art et du street art. Et en attendant, et pour terminer, sous un petit vent de liberté chéri par bien des artistes, autant que nécessaire à leur travail, je vous laisse en compagnie de Serge Reggiani, qui va nous interpréter « Ma liberté ».
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette.